bulletin d'information.
Les infos. Vos infos d'ici.
Oui, un bulletin d'information sur la scène locale et régionale qui s'en vient très bientôt. Mais avant toute chose, on va vous souhaiter la bienvenue à l'émission en ce beau mardi ensoleillé, deuxième journée de la semaine. On est 6 février aujourd'hui. C'est du soleil right through, comme on dit, toute la journée, avec un maximum à atteindre de moins 2. Actuellement, il fait moins 13 degrés. Et bonjour Alexis Goyer.
Bien le bonjour.
Qui est là aux informations pour 9 et 10 encore ce matin. Alexis, c'est la 30e édition de la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se tient jusqu'au 10 février de cette semaine. Alors, on va profiter de l'occasion pour souligner leur travail exceptionnel, tout le personnel enseignant à travers le Québec, évidemment. On sait que ce sont eux qui forment notre élève de demain. Hein?
Oui, et qui ont une influence qu'on néglige souvent sur nos futurs adultes.
Et est-ce que tu as un enseignant ou une enseignante qui a fait beaucoup pour toi?
Eh bien, oui, Anne. C'est en la troisième année du primaire pour moi où il y a un professeur qui m'a vraiment impacté, et c'est Mme Lefeuvre.
Lefeuvre.
Oui, non qu'on entend...
Bien, par ici, c'est Lefeuvre.
Oui. Ah. Donc, la prononciation qu'on entend très rarement pour la bonne raison qu'elle vivait en France.
OK.
Et je l'ai eue parce qu'elle a fait un échange culturel avec le professeur de troisième année de mon école primaire. Donc, moi, cette année-là, j'ai eu Mme Lefeuvre qui était ici pendant un an. Et femme fantastique qui m'a vraiment aidé avec beaucoup de matière et c'est l'année où ce que j'ai préféré l'école.
Ah, oui, hein?
Donc, elle m'a vraiment donné le goût et très inspirante. Et c'est toujours drôle lorsque le professeur arrive à la première journée de classe et demande à tout le monde de sortir leur cartable. Et tout le monde sort leur cartable et le prof les regarde abasourdi parce qu'en France, un cartable, c'est un sac à dos. Donc, elle s'y attendait absolument pas quand elle nous dit de sortir
notre cartable avec les petits anneaux. Là,
c'est ça, exactement.
Okay. Ah, bien, c'est bien. Donc, on tenait à le souligner ce matin. La semaine des enseignantes et des enseignants. On s'en va aux infos, s'il veut bien, Alexis. On va parler d'Éric Duhaime qui s'exprime sur le financement privé des partis politiques.
Suite à la controverse concernant des dons privés servant à monnayer l'accès à un ministre à la coalition Avenir Québec, François Legault a annoncé que son parti renoncerait dorénavant au financement privé, proposition qui a été unanimement refusée par les partis d'opposition. Le Parti conservateur du Québec est le parti politique avec le plus haut taux de financement privé. Pour son chef, Éric Duhaime, il ne s'agit de rien de moins qu'une tentative du gouvernement de faire oublier la controverse d'origine.
On a le droit, comme citoyen, de vouloir financièrement aider celles et ceux qui font avancer nos idées. C'est pas parce qu'il y a des politiciens qui utilisent des petites magouilles pour remplir les coffres de leur parti qu'il faut complètement éliminer la liberté de financer des partis pour les citoyens qui veulent politiquement s'impliquer. Donc, le problème, c'est qu'il faut que ces gens-là soient sanctionnés, mais c'est pas de commencer à dire on va éliminer le financement pour les autres partis.
L'ancien animateur de radio mentionne également que renoncer au financement privé, c'est condamner toute tentative d'émergence d'un nouveau parti politique.
La raison pourquoi moi je m'inquiète en particulier, c'est que si on enlève le financement privé puis que ça revient tout au financement public, mais le financement public il est basé sur les résultats de la dernière élection. Donc ça veut dire qu'un parti comme le Parti conservateur du Québec aurait jamais pu connaître la croissance phénoménale qu'on a connue aux dernières élections. Il n'aurait plus jamais un parti politique qui serait capable de devenir un grand parti au Québec.
Éric Duhaime va jusqu'à affirmer que cette réaction précipitée de la part du gouvernement n'est qu'une énième preuve de la déchéance de celui-ci.
M. Legault a lancé hier quelque chose d'un verre parce qu'il était pris dans un scandale puis il essayait de détourner l'attention, mais il n'a pas réfléchi deux minutes. Là. Radio-Canada nous a appris que la CAQ, il y a quelques semaines, voulait faire monter le montant de 100 $, il voulait le monter à 200 $. Là, ils sont pognés dans un scandale, ils veulent éliminer le financement privé. C'est n'importe quoi ce qui est en train de se produire, puis ça explique pourquoi la CAQ est en débandade.
Une enquête du commissaire à l'éthique et à la déontologie est présentement ouverte.
On va parler d'un rehaussement de la sécurité réclamée, là, et ça se passe au palais de justice de Maniwaki.
Les mesures de sécurité dans les palais de justice à travers la province sont décriées depuis l'agression perpétrée contre un interprète judiciaire au palais de justice de Longueuil au début du mois de janvier. Le syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec réclame un rehaussement de la sécurité afin d'assurer la sécurité publique, mais également celle des employés des palais de justice. Il demande l'installation de scanners corporels à ondes millimétriques comme ceux qu'on retrouve dans les aéroports au pays, ainsi que l'ajout de portiques détecteurs de métaux. Le président du syndicat, Franck Perales, explique sa vision des choses.
On pourrait prendre une quinzaine ou une vingtaine des palais les plus achalandés où le volume judiciaire est assez élevé. Et on pourrait y aller comme un échéancier à chaque année. On en ferait, mettons, deux, afin de munir ces palais de ces équipements-là. Le coût en vie humaine, je pense que rien ne vaut un montant investi par le ministère de la Sécurité publique ou de la Justice.
Le syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec estime à quelques millions de dollars le coût de ces ajouts. L'ajout de près de 140 constables spéciaux à travers la province, annoncé par Québec dans la foulée de l'agression au palais de justice de Longueuil, est salué par le syndicat. Cependant, l'organisme estime que la formation des constables spéciaux, qui est récemment passée de 13 à 8 semaines, est incomplète et devrait être rehaussée considérablement.
On demande aujourd'hui au gouvernement de revenir peut-être aussi à une formation initiale de 13 semaines, même adapter peut-être certaines pratiques, justement, vu les gens, la clientèle que nous desservons, les gens qui souffrent de maladies mentales, d'intoxication particulière, vous savez, peut-être aussi rajouter à la limite même une semaine concernant cette formation, de façon à les aider aussi, ces gens-là, à les encadrer.
La préfète de la vallée de la Gatineau, qui a été affectée à la sécurité au palais de justice de Maniwaki et de Gatineau durant une quinzaine d'années, déplore aussi le manquement au niveau de la sécurité.
La sécurité, il y en a très peu, très mal encadrée. Je vous dirais, dans mon ancienne vie, j'ai eu des coups de poing, des claques, me faire cracher au visage. C'est émotif, fait que des fois, ça dégénère. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale aussi, de consommation. Puis le criminel, évidemment, la violence. Fait qu'on n'est vraiment pas à l'abri, puis on l'a vu dans les dernières années, là, à Maniwaki, il y a eu des incidents.
Cette dernière est plutôt d'avis que le ministère de la Sécurité publique devrait investir les sommes nécessaires afin de garantir rapidement la sécurité dans tous les palais de justice du Québec et non pas l'étendre dans le temps, comme le suggère le syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec.
Un coup de barre. Parce qu'on y va dans le temps, à Maniwaki, on va être les derniers. On va être les derniers, puis il va y avoir le temps d'arriver beaucoup d'événements tragiques pour avoir des décès. Là. Non. Un coup de barre. Ils sont capables. C'est la sécurité des gens, c'est la sécurité des employés.
Et on va parler d'un comité des loisirs qui est en voie de devenir du côté de la municipalité de Montserre-Fléteune.
Montserre-Fléteune souhaite mettre sur pied un comité des loisirs. Pour ce faire, la municipalité lance un appel aux citoyens motivés. L'objectif du conseil municipal est de revitaliser la vie culturelle de Montserre-Fléteune, comme cela a été le cas auparavant. C'est ce qu'explique la mairesse Véronique Dany.
Présentement, on parle souvent de faire des activités au niveau du conseil, mais on n'avait pas de comité, fait que souvent, ça tombait à l'eau. Fait qu'en ayant un comité, ça va être plus facile de s'aligner vraiment pour des belles activités. Cette année, on en a eu quelques-unes d'activités, mais on aimerait en avoir comme avant, que la municipalité puisse comme revivre finalement.
Pour l'instant, deux élus siègent déjà sur le comité. Il n'y a pas de limite de membres pouvant l'intégrer. La mairesse précise que bien que les élus ont déjà certaines idées d'activités, il n'y a pas encore de plan clairement défini.
Commencer, en fait. C'est sûr que chaque élu a certaines idées de qu'est-ce qu'il aimerait faire au niveau de la municipalité, mais présentement, on est vraiment à la base, on commence du début, puis on fait une belle équipe, puis après ça, on va être capable de s'aligner pour des belles activités chez nous.
Une résolution pour officialiser le nouveau comité des loisirs de Montserre-Fléteune sera votée lors du prochain conseil municipal.
Alexis, on a un complété dans mon émission. Il en reste un autre, puis on se retrouve dans une demi-heure, ben, un petit peu moins, là, pour justement parler, celui de 10 heures.
J'ai bien hâte.
Bonne journée à toi. Profite encore du soleil aujourd'hui. Hein?
Absolument.
Et là, toute la journée.